2013. Apparemment, donc, la fin du monde a été reportée. Donc nous sommes encore là, merci Seigneur. Et j'aimerais en profiter pour saluer chacun et vous souhaiter les meilleurs vœux pour ceux à qui je n'ai pas souhaité. J'avoue que ce n'est pas pour moi une habitude, en fait, de souhaiter les vœux. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc, c'est pas que je ne vous souhaite pas les meilleurs vœux. Mais à Nouvel An, particulièrement, c'est pas quelque chose... Je n'ai pas été habitué à ça. Donc, des fois, ça ne sort pas chez moi. Mais je vous souhaite mes meilleurs vœux tous les jours. Tous les jours et du fond du cœur. Donc justement à ce sujet-là, parce que j'ai un peu réfléchi sur cette notion de vœux, et j'ai retiré quelques éléments d'une recherche qui a été faite dans les milieux évangéliques aux États-Unis sur les vœux justement des chrétiens. Donc c'est une recherche qui a été faite sur 1021 personnes qui ont été interviewées, des adultes de 18 à 50 ans. Et donc les personnes interrogées ont déclaré être des pratiquants ayant participé à au moins un culte pendant le mois écoulé et ont précisé que leur foi était très importante pour leur vie. Alors, en préambule, j'aimerais dire que c'est vrai, hein, cette histoire de vœux, c'est des milliards de gens qui, chaque année, se souhaitent les meilleures choses. Et c'est des milliards de gens qui espèrent, en tout cas qui disent, qu'ils vont changer quelque chose dans leur vie. Et donc, ils prennent des bonnes résolutions. Et à partir de ce jour, je décide que... Et donc, ils prennent des résolutions en sachant que, de toute façon, ils n'arriveront pas à les tenir. Ou qu'ils ne voudront pas les tenir. Et ça, c'est valable dans le monde, n'est-ce pas? C'est devenu une sorte de folklore. Mais c'est aussi, et malheureusement, valable chez les chrétiens. Ces derniers font des vœux par lesquels ils souhaitent devenir de meilleures personnes. Et le constat, c'est que année après année, ce sont les mêmes résolutions qui sont prises par les mêmes personnes. Les croyants font des péchés. Pas trop, normalement. Mais, n'est-ce pas? Ça existe. Et parfois, ces péchés sont des habitudes. Et ce sont des habitudes dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et aujourd'hui, avec la montée de l'Internet et les nouvelles technologies, il y a de nouvelles habitudes qui naissent et qui sont autant de raisons supplémentaires de tomber dans des travers ou dans quelque chose qui peut être considéré comme étant du péché ou des tentations en tout cas. Et donc cette recherche parmi les chrétiens aux États-Unis montre que les chrétiens américains, donc, c'est bien parce que ça se passe loin, donc on va parler des Américains. Les chrétiens américains sont aux prises avec des péchés chroniques qui sont donc aussi vieux que le monde et qu'ils n'arrivent pas à régler définitivement. Alors en tête des tentations, cité par ces chrétiens, on trouve l'abus de nourriture. Alors, je ne sais pas si vous avez... J'ai vu un reportage sur, une certaine chaîne de distribution de nourriture. Et les doses aux États-Unis sont absolument incroyables. Quand chez nous on a des doses normales et puis des doses big size, hein, de grande taille, et ben aux États-Unis, ce qui est... Quand chez nous, c'est grande taille, chez eux, c'est la taille normale. Donc, voilà, on est dans... C'est pour ça, ils abusent beaucoup plus que nous de la nourriture. En deux, viennent les dépenses d'argent exagérées. En trois, vient la médisance. En quatre, la jalousie. En cinq, et là les chercheurs ont mis des petits points d'interrogation, l'attirance pour la pornographie, parce qu'ils disent que sans doute c'est beaucoup plus élevé que ça, mais que évidemment les gens répondent difficilement à ce genre de questions. En six, le mensonge et la tricherie. En 7, et là, dans des petites proportions, la prise d'alcool ou de drogue. Et donc, d'autres travers qui sont la procrastination. Tout le monde sait ce que ça signifie ? C'est la propension à reporter un travail sans arrêt. C'est-à-dire qu'on doit le faire, on sait qu'on doit le faire, et on attend... La dernière limite, on attend peu de temps avant la date butoir pour le faire, ou des fois on dépasse même la date butoir et on le fait quand même. Enfin, on essaye de le faire. La paresse, l'addiction à tout ce qui est média, donc ce qui est lié à l'ordinateur, et l'utilisation des mails ou des réseaux sociaux comme défouloir contre des personnes. Donc les mails, les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on appelle Facebook et autres choses comme ça, hein, où les gens donc se laissent aller. Là, on parle de chrétiens, hein, se laissent aller. La proportion c'est 11% là, pour ça. Un autre constat, c'est que les croyances cèdent au péché. Donc le premier constat, c'est qu'ils font de leur péché des habitudes. Le deuxième constat, c'est que les croyants cèdent au péché parce qu'ils se sentent mal à l'aise, parce qu'ils se sentent mal dans leur peau. Hein, quand on leur demande pourquoi est-ce que vous péchez, eh bien ils disent c'est parce que je me sens mal dans ma peau et que je veux m'évader de la vie quotidienne. Pour 20% d'entre eux, donc le péché ou la non-résistance à la tentation sert de soupape permettant d'échapper à la vraie vie pour un temps. Pour d'autres, céder à la tentation permet de lutter contre la solitude et les peines de la vie. Enfin, on néglige de résister au péché pour être admiré par les autres, pour remporter des succès rapides, ou par plaisir personnel. Et pour 1%, ils considèrent qu'ils ont du mal à résister au péché à cause de la nature pécheresse. C'est intéressant parce que ça montre que les chrétiens savent quelle est leur responsabilité lorsqu'ils pêchent. Ils n'accusent pas la nature pécheresse. Ils ne sont que 1% à dire c'est plus fort que moi. Donc à 99%, les chrétiens pêchent et savent qu'ils font mal lorsqu'ils pêchent. Dernier constat, les résolutions prises lors de la nouvelle année sont prises à la légère et sans volonté de résister. En réalité, près de 60% des personnes interrogées disent ne rien faire pour éviter la tentation. Ceux qui, malgré tout, cherchent à résister disent prier Dieu pour qu'il leur donne la force de résister. D'autres, à 10%, choisissent tout simplement de dire non. Et d'autres encore choisissent de fuir les situations à risque. Enfin, un petit groupe fait appel à un tiers, donc un pasteur appelle quelqu'un à l'aide pour partager ce qui fait problème. Alors le constat qu'on peut faire de cela, c'est la conclusion en tout cas qu'on peut en tirer, c'est que les résolutions de Nouvel An chez les chrétiens font partie du folklore et ne participent en aucun cas à l'amélioration de la vie des personnes, qu'elles soient chrétiennes d'ailleurs ou non. Les hommes et les femmes ne croient pas vraiment que leurs vœux s'accompliront, et pour certains, une minorité, le seul acte de foi qu'ils font, c'est de compter sur Dieu pour que celui-ci les aide à accomplir leurs vœux. Alors, si on se tourne vers la parole de Dieu, avec ça à l'esprit, on peut se poser la question pour nous-mêmes. Est-ce qu'on a fait des vœux, particulièrement à Nouvel An? Je pense que la plupart d'entre vous me répondrez, je n'ai pas fait de vœux particuliers à Nouvel An parce que j'en fais régulièrement. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut effectivement, je crois que les vœux, c'est bien. Je pense que d'avoir un désir ardent de changement, un désir ardent de voir le Seigneur agir et que notre vie change, que notre vie devienne meilleure, je pense que c'est une bonne chose. Et on n'a pas besoin de se limiter à la période de Nouvel An pour cela. Chaque jour, en fait, devrait être rempli de ce désir de changement. On devrait être rempli, en fait, d'une aspiration à voir nos vies transformées. Dans l'enquête, on a vu que 60% des chrétiens disent ne rien faire pour éviter la tentation. Et donc, ça m'a soulevé un certain nombre de questions, et je veux rapidement les aborder, parce que je veux absolument laisser de la place à Paul. Si. Tu y couperas pas, hein? En tant que chrétien, si l'on désire du changement, eh bien, on le verbalise. On le dit à Dieu, soit en le prononçant dans nos bouches, soit à l'intérieur, parce qu'on sait que Dieu lit dans nos cœurs et comprend ce que nous disons même sans articuler. Et une question se pose alors. Quel intérêt Dieu accorde-t-il à nos propos, à nos désirs, si nous lui disons que nous voulons que ça change? D'autre part, est-ce que nous sommes réellement volontaires pour voir ces changements s'accomplir? Et aussi, est-ce que nous sommes vraiment conscients de l'importance et de la solennité d'un vœu fait dans la présence du Seigneur? Alors, quel intérêt Dieu accorde-t-il à nos propos lorsque nous lui disons « nous voulons que ça change » Si vous pouvez aller avec moi dans Matthieu 5, Il n'y a pas de méthode pour s'adresser à Dieu lorsque on veut que ça change. Cependant, on doit garder en mémoire quelque chose qu'on sait déjà. C'est que Dieu ne s'intéresse à nos déclarations que s'il voit qu'il y a derrière une intention. D'accord ? Donc, un vœu qui est dit à la légère n'intéresse pas Dieu. Et on va le voir un peu plus tard, ça peut même être dangereux de faire ce genre de choses-là sans prendre les choses au sérieux. Dans Matthieu 5, je vais lire 33 à 37, vous avez encore appris qu'il a été, c'est Jésus qui parle, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Prenons aussi le psaume 50. Verset 14. À partir du verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce que ces versets disent, c'est que en faisant des serments et des prières, on attend de Dieu qu'il accomplisse quelque chose pour nous. C'est-à-dire qu'on voit les choses comme une transaction. Je vais faire les sacrifices, je vais donner à Dieu ce qu'il désire, des sacrifices. Et j'attends en échange quelque chose. J'attends qu'il me donne ce que mon cœur désire. C'est ce que Dieu reproche dans les psaumes. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? C'est-à-dire que l'homme donne des choses à Dieu et dans sa tête, il se dit « Ah oui, Dieu en a besoin, je vais lui donner ça. Pauvre Dieu. » Et parce que je vais faire cela pour lui, lui, il va faire quelque chose pour moi. Il va accomplir mes vœux. Il va me donner les choses. Il va intervenir miraculeusement dans ma vie pour faire que ce que moi, je ne fais pas, eh bien, il va l'accomplir. Eh bien, Dieu inverse les choses. Il dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, finalement, je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Au verset 12, il dit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Ce que Dieu dit, c'est les vœux qui sont les tiens. Eh bien, accomplis-les. Accomplis-les toi-même. Et ce qui est formidable, c'est qu'il dit « Et invoque-moi au jour de la détresse. » Si lorsque tu les accomplis, tu ne t'en sors pas, tu n'y arrives pas, eh bien, là, appelle-moi. Je viendrai pour te soutenir, je viendrai pour t'aider. Invoque-moi au jour de la détresse, lorsque tu es en difficulté, alors que tu es en train d'accomplir tes vœux, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Dans Matthieu, il nous est dit, ce n'est pas la peine de jurer dans tous les sens, de faire des serments à tort et à travers. Parce que faire les bonnes déclarations, ce n'est pas suffisant. Dieu attend de nous que lorsque nous lui disons oui, notre oui soit oui. Et lorsque nous prenons une décision qui est négative, eh bien que notre non soit non. Dieu, en fait, ne supporte pas, je crois, les bavardages. Il s'attend à avoir avec nous une relation qui est cohérente et où les mots ont une importance. La psychologie moderne accorde beaucoup de place au bavardage, à l'écoute profonde de l'être. Mais Dieu va directement à la racine des choses. Ça nous évite de devoir passer par tous ces stades et sous-stades qui n'ont pas vraiment grand intérêt. Et Dieu nous pose une question qui est, mais la parole que tu dis, le mot que tu emploies, la décision que tu évoques, est-ce que seulement tu y penses comme étant quelque chose de réel? Est-ce que seulement ça a de l'importance pour toi? Est-ce que tu as pesé le poids de ces mots? Dieu nous prend au sérieux. Et c'est bien cela que nous attendons, n'est-ce pas? Que nous soyons pris au sérieux. Alors encore, faut-il que nous soyons volontaires pour que ces changements s'accomplissent? Être réellement volontaire, ça veut dire quoi? Lorsque Alex a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un pour nettoyer la salle? Il s'attendait à des volontaires. Et là, immédiatement, tout le monde réfléchit très vite dans sa tête. Parce que chacun sait ce que ça signifie que de lever son doigt. Chacun sait que si il lève son doigt, il va être obligé de faire en fonction de son action. Quelqu'un pour nettoyer la salle? Si vous pensiez que votre geste n'était pas important, eh bien vous auriez tous levé le doigt. Et puis après, vous seriez dit, oh, je vais oublier, c'est pas grave, de toute façon, si je le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Voilà. Mais à partir du moment où vous savez que c'est important de lever le doigt, alors, eh bien, il y en avait combien? 5, 6? Voilà, donc il y a plus que 5, 6 personnes qui se sont dit, je vais m'engager, je vais lever mon doigt, je vais être volontaire, parce que les autres, pour différentes raisons, savaient qu'ils ne pouvaient pas s'engager. Eh bien, c'est pareil dans la vie chrétienne. Lorsque réellement nous voulons que le Seigneur agisse, que ces péchés que nous faisons par habitude disparaissent, que tous ces travers qui sont les nôtres, je pourrais les citer, n'est-ce pas ? Mon mauvais caractère, mes mauvaises réactions, toutes ces choses-là, tout ce que je sais qui n'est pas conforme, tout ce que j'aimerais qu'il disparaisse là, eh bien encore faut-il être volontaire pour que ça change. Et Dieu vous pose la question, non pas est-ce que tu veux nettoyer la salle, mais est-ce que tu veux que ça change? Est-ce que tu veux que ça change ? Et immédiatement, vous savez quelles sont les implications si vous répondez oui. Immédiatement, vous savez ce que vous allez perdre. Parce qu'on peut être très confortable, n'est-ce pas, dans les situations d'entre-deux, dans des situations de compromis, dans les situations où on ne prend pas de décision définitive. Lorsque nous sommes volontaires, nous sommes prêts à obéir. C'est cela que ça signifie. Lorsque je dis oui, je suis prêt à faire en fonction de mon oui. Et le oui implique une quantité de choses et je fais confiance à Dieu pour cette quantité de choses. Dans Nombre, au chapitre 30 et au verset 3, il est dit que celui qui fait un vœu à l'Éternel, on ne va pas y aller, ne violera point sa parole. C'est-à-dire que si je fais un vœu, eh bien je fais tout pour l'accomplir. Et il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Dans Deutéronome, au chapitre 23 et au verset 21, il est aussi précisé que l'homme va s'empresser d'accomplir le vœu qu'il a fait à l'Éternel. L'homme qui a fait un vœu ne violera pas sa parole. Et il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Et il le fera avec empressement. Vous savez à quoi on voit qu'une personne dans une église est prête à agir en fonction de la parole qu'il reçoit de la part du Seigneur? C'est la façon dont il s'assied sur sa chaise. Entre ceux qui sont comme ça. Moi, je suis souvent comme ça. Bon, c'est physique parfois aussi, n'est-ce pas ? Les chaises ne sont pas confortables et tout, donc c'est pas à 100%. Mais lorsque vous avez dans des assemblées des gens qui sont assis au bord de leur chaise, tout à l'avant comme ça, prêts à bondir, eh bien, vous savez que là, il y a un intérêt. Vous savez que là, il y a une personne qui n'attend qu'une chose, c'est de faire ce qu'elle entend de la part du Seigneur, faire ce qu'il lui appartient de faire. Et ça, c'est formidable. Le jour où on sera tous comme ça, prêts à démarrer, voilà. Nous ne sommes pas obligés de faire des vœux à l'Éternel. Il n'y a pas d'obligation. Et d'une certaine manière, il vaut mieux ne pas en faire si nous n'avons pas l'intention d'obéir. Dieu veut pacifier nos caractères, il veut nous rendre obéissants. Il veut que nous puissions voir des changements dans nos vies. Il veut que nous puissions agir lorsque nous entendons la prédication. Il veut que nous puissions agir lorsque nous entendons des gens qui prient. Est-ce que les prières nous font agir? J'entends des prières parfois qui sont des vraies révélations de la part de Dieu. Et les gens ne le savent même pas. Les exhortations. Tout ça, ce sont des moments, des instants que Dieu nous donne. Des instants privilégiés. Qui à chaque fois sont pour nous des occasions où l'on peut agir. Où l'on peut obéir. L'obéissance, c'est un mot qui est très difficile à entendre pour un cœur qui n'a pas été pacifié par Dieu. Ça m'a pris des années, moi, pour que ce terme arrête de me faire mal. Parce que je suis un indépendant et j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Mais oui. Mais Dieu travaille les cœurs. Et ce qui pour moi était très difficile à faire, il fut un temps, est devenu aujourd'hui très facile, est devenu aujourd'hui une habitude à amplifier encore. Alors certains me diront, mais finalement, tu nous dis tout ça, mais comment est-ce que moi je sais ça? D'où ça te vient? Alors je vais envie de vous dire, ça vient de la Bible. Je l'ai lu dans la Bible. Vous me direz, oui, mais moi je lis la Bible aussi. Et j'étais frappé dernièrement du nombre de fois où Jésus renvoie les hommes et les femmes avec, à qui il s'adresse vers les Écritures. Et je vais juste vous les citer telles quelles. Je pense que ce que Jésus voulait, c'était signifier aux gens que leur ignorance, ce qu'ils disaient être de l'ignorance, eh bien, c'était surtout de la mauvaise foi. Parce que les gens disent « Ah mais oui, mais j'ai péché par ignorance. Je ne savais pas. » Et Jésus renvoyait ses interlocuteurs là où ils pouvaient trouver des réponses. En leur disant « N'avez-vous pas lu ?» En leur disant « N'avez-vous jamais lu ?» Et ensuite, il développe, n'est-ce pas? Que signifie donc ce qui est écrit? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ce matin, on a été invité à lire la parole de Dieu. Alex en parlait. Et c'est ce que j'aimerais vous invitez à faire à vous aussi, c'est mon vœu pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions entrer dans les Écritures beaucoup plus que ce que nous faisons et en retirer la substance. On peut faire des études bibliques, on peut faire de la théologie, tout ça c'est une chose. Mais il faut que la compréhension que nous avons de la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs de sorte à ce que cela devienne vivant. Il faut que ce soit transposé de notre cerveau, de notre intelligence, que ça descende dans notre cœur. Et c'est là alors ce qu'on peut appeler une révélation. C'est-à-dire que on comprend des choses qui ne sont pas écrites textuellement. On comprend le cœur de Dieu. On comprend l'essence divine. Parce qu'il y a une interaction entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit qui agit dans l'homme. Et si j'avais un désir profond pour chacun d'entre nous, et je l'ai ce désir profond, c'est que cette interaction se fasse de façon pleine et entière pour chacun d'entre nous. Et qu'il n'y ait pas ce décalage entre ce que nous lisons d'un côté et ce que nous vivons de l'autre. Que nous apprenions l'obéissance. Que cela ne devienne plus un mot qui nous fait mal, un mot qui nous agresse, mais bien au contraire, un mot qui fasse partie de nos envies, de notre vocabulaire. Et l'apôtre Paul, et ce sera ma conclusion, dans Actes 24, 12 à 16, nous révèle, lui, comment il agit, comment il agissait. Hein, lorsqu'il devait se défendre devant Félix. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, la secte d'Hasbrook. Pendant des années, on a été considéré comme une secte. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. C'est un choix. Je crois à ça. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce ou je m'exerce constamment, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voilà donc comment on accomplit ses vœux devant Dieu. Je m'exerce constamment à avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et je terminerai avec ce merveilleux verset dans Éphésiens chapitre 1. Dix-sept à dix-neuf. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Que nous puissions nous rapprocher de notre Seigneur et découvrir l'infinie grandeur et puissance qui existe en lui. Parce que s'il y a des vœux, eh bien c'est à proximité de Christ que nous pourrons les accomplir. Voilà. Bonne année.
Tenir longtemps parce que sinon vous allez dire ça commence mal l'année s'il y a trop, mais en revanche je vais rebondir sur ce que Daniel a dit et vous donner donc du travail à lire chez vous, puisque je voulais parler sur la personnalité de Joab. J'en ferai un résumé très bref, mais vous allez trouver la personnalité de Joab dans 2 Samuel, mais il faut lire tout le livre de 2 Samuel. Donc si vous lisez 2 Samuel, pourquoi pas commencer par 1 Samuel, n'est-ce pas, suivant une certaine logique. Et les Français, nous disons que nous sommes logiques et rationnels. Alors, dans 1 Samuel, vous avez la naissance de Samuel, vous avez là le choix de Saül, la vie de Saül, n'est-ce pas, les péripéties de David avant qu'il soit roi, et 2 Samuel, c'est lorsque David devient roi, et donc toute la vie de David qui est décrite. Mais il avait un chef d'armée qui s'appelait Joab, et ce chef d'armée avait des vertus extraordinaires. Combien il a servi fidèlement David, mais il avait des problèmes extraordinaires aussi. Et c'est ça que je voulais souligner. Pour cela, il faut lire 2 Samuel. Donc peut-être vous pourrez le lire chez vous et découvrir par vous-même les problèmes de Joab. Problèmes de Joab, je vais les mentionner très brièvement selon ce que je vois. C'est que, et ça rejoint ce que disait Daniel juste avant, c'est qu'il avait une volonté très forte, mais de faire sa volonté. C'est-à-dire qu'il était loyal à l'égard de David. Il était un serviteur extraordinaire. Il y a même un épisode dans 2 Samuel que vous lirez lorsque il a attaqué une ville. Et puis il a encerclé, etc. Il a réussi à gagner, mais il a dit à David, il a envoyé un messager à David pour lui dire « Viens maintenant toi-même prendre possession de cette ville, sinon la gloire va me revenir à moi. » Et je ne veux pas ça, je veux que la gloire te revienne. On dit au Joab, il est merveilleux. Joab, il a risqué sa vie à combien de reprises? Il a perdu son frère, il avait 2 frères, Abishaï et Azaël. Et son frère est mort dans un combat. David n'a, semble-t-il, fait aucun cas de la mort d'Azaël. Ça paraît injuste. Pourtant, les 3 frères étaient au service de David jour et nuit. S'il fallait combattre, s'il fallait protéger David, ils étaient là. David pouvait compter sur ces 3 hommes-là sans arrêt. Mais le problème, c'est que tous les 3 avaient une forte volonté qui ne venait pas, qui n'était pas soumise à David. Et ce que je vois, c'est que dans notre vie chrétienne, on peut avoir une forte volonté. « Seigneur, je ferai ta volonté. » Ça rejoint quelque chose que Daniel a dit il y a quelques dimanches concernant Simon-Pierre, n'est-ce pas, avant la Pentecôte, évidemment. « Seigneur, n'aie crainte, j'ai mon épée. Je suis là pour te protéger. » Et Joab avait cette forte personnalité. Pourquoi ? Peut-être, je vais faire de l'inférence. La forte personnalité, elle est là clairement dans 2 Samuel. Mais l'inférence que je vais faire, c'est qu'il était fils de Tseruya. Et Tseruya, semble-t-il, était sa mère. Il n'avait pas de père. Le père était mort, vraisemblablement. Et donc, il avait probablement eu le rôle de père. Et ses 3 frères ont grandi probablement comme protecteurs de la mère. On lit que Tseruya était la mère de Joab et de Abishaï et de Azaël. Et donc, ils ont grandi en étant des hommes forts, des hommes qui assuraient la sécurité. C'est normal, dans les circonstances probablement qu'ils ont connues. Mais le problème, c'est que ça a développé cet état d'esprit. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu ne cherche pas des gens qui disent, « Voilà, moi, je peux faire ça. Moi, je vais faire ça. Je veux faire ça parce que c'est mon idée. » Et comment voit-on que ce que Joab faisait sa volonté? Eh bien, quand David lui disait quelque chose, il ne le faisait pas. Si ce n'était pas en accord avec ce qu'il voyait, il ne le faisait pas. Par exemple, David a accepté le repentir de Abner. Vous lirez ça dans 2 Samuel, c'est très intéressant comme histoire. Abner, c'était aussi un chef militaire, un chef de l'armée. Et Abner avait mis Ish-bosheth, un fils de Saül, sur le trône d'Israël, alors que David était sur le trône de Juda. Et il a fait en quelque sorte une sorte de coup d'État, au fond, Abner. Il était très fort. Et un jour, Abner a décidé de changer, de revenir vers David. Et il a dit à David, « Si tu m'acceptes, je ramènerai tout Israël à toi. Comme ça, tu seras roi d'Israël. » Parce qu'il n'y avait pas encore la scission entre Juda et Israël. Mais elle était faite temporairement par les circonstances. Et donc il a dit, je ramènerai tout Israël à toi, de sorte que tu tueras tout Israël. Et David a accepté. Pourquoi a-t-il accepté alors qu'Abner avait fait des choses abominables à l'égard de David avant? Il a été traître. Mais parce que Abner était de la famille de Saül. Abner était le cousin de Saül. Et David respectait cette alliance avec Saül. Il a respecté que Dieu avait choisi Saül. Et il a donc respecté Abner et son repentir. Mais Joab n'a pas apprécié ça. Joab a dit, moi je ne vais pas accepter ça. David, il peut accepter. Moi j'ai décidé que Abner ne doit pas revenir. Donc il a tué Abner. Il a fait ça quelques années après avec un autre chef que David avait nommé. David avait nommé Amasa comme responsable dans l'armée. Joab n'a pas apprécié, il l'a liquidé. À peu près de la même façon. Mais il avait une volonté qui était très très forte. David avait dit, quand Absalom s'est révolté, Absalom c'était le fils de David, et il s'était révolté contre David, il voulait tuer David, son père, pour prendre le règne. C'était abominable. David a dû fuir devant son fils, il a risqué beaucoup de choses. Joab était là pour le protéger, mais Joab a risqué très très lourd. Et quand ils ont réussi à attraper Absalom, David avait dit, ne touchez pas Absalom, ne faites aucun mal, c'est mon fils, ne lui faites aucun mal. Et Joab a dû, il dit ça, mais moi je vais le tuer. Et il a tué Absalom. Alors on peut dire, mais c'est normal. En fait, c'était plus logique de le tuer, parce qu'Absalom était tellement orgueilleux, tellement méchant, tellement contre son père, il voulait tellement liquider son père, que c'était intelligent de la part de Joab. Mais ce n'était pas la volonté de David. Et la question, c'est est-ce que notre volonté, elle est celle de Dieu? Est-ce qu'elle est soumise à la volonté de Dieu? Parce que moi, je veux. Quelquefois, on dit, pour le service du Seigneur, on a besoin de gens qui ont plein de projets. On a besoin de gens qui ont des idées. On a besoin de gens qui sont capables de choses. Et quand on voit quelqu'un qui est capable de manière naturelle, on dit, oh là, pourvu qu'ils se convertissent, parce que ça, vraiment, dans l'Église, ça serait une bénédiction. Si quelqu'un de capable se convertit, il doit passer par la soumission totale à Dieu. Et il est très vraisemblable, c'est Dieu qui décide, évidemment, mais il est très vraisemblable que Dieu n'utilise pas les compétences naturelles. Dans certains cas, il utilise d'autres compétences qu'il donne lui-même. Il donne ce dont il a besoin. Et le problème principal de Joab, c'était cette forte personnalité. C'était cette décision de faire sa volonté. Mais comme a dit Daniel tout à l'heure, c'est en faisant la volonté de Dieu, en disant « je veux faire, je suis volontaire pour te servir et pour faire ce que tu me dis ». Si tu me dis quelque chose et que je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas qu'on mette à mort Absalom alors qu'il est visiblement, il va un jour ou l'autre te tuer, eh bien, j'accepte parce que c'est ta volonté, parce que c'est ton choix. Or, Joab ne faisait pas la volonté de David. Ça, c'était le problème principal de Joab. Un deuxième problème que je détecte dans la personnalité de Joab, c'est qu'il ne supportait pas la concurrence. En fait, c'est réellement pour ça qu'il a tué Abner et qu'il a tué Amasa. C'est que il a vu des concurrents. Et il voulait être le seul. Il tolérait l'éventuelle concurrence de ses frères, bien que Hazaël fût tué par Abner, précisément. Mais il acceptait la concurrence de son frère Abishaï, qui était resté, parce qu'il savait que son frère était plus jeune et qu'il avait une sorte de mainmise sur lui, que son frère ne se soulèverait pas contre lui. Mais son désir était d'être le premier, d'être le seul. Et je crois que ça, c'est un danger, n'est-ce pas, quand on est dans des petites communautés comme la nôtre, il peut s'éveiller l'idée de dire, je veux être celui qui a une responsabilité dans un domaine ou dans un autre, et je veux réussir à arriver à ce poste. Si c'est le cas, il faut absolument deux choses. Si vous voulez un jour arriver à cette position, fera renoncer à cette obstination à vouloir cette place. Et aussi, si c'est le cas, il y a un vrai danger que vous deveniez comme Joab, qui va faire en sorte que les autres soient diminués pour qu'ils puissent avoir la place. Et notre cœur doit être de chercher non pas à se mettre en avant, à être devant, à être le seul, mais à pouvoir chercher à voir chez les autres. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important de pouvoir voir chez les autres ce qu'il y a, que le Seigneur a donné et veut utiliser. Et cela doit être toujours notre but et notre façon de voir les choses. Alors, je vais vite passer à ce qui est arrivé à Joab. Après avoir fait une vie de service pour David, on dirait, voilà, il doit y avoir la reconnaissance de David. Eh bien, vous lirez dans 2 Samuel toutes les paroles que David prononce à l'égard de Joab. Ce sont des paroles de malédiction. Ce sont des paroles de rejet total. Quand Hazaël, le petit frère, est mort dans un combat parce que sous la faute d'Abner, eh bien, il n'y a pas de parole pour Hazaël, en tout cas enregistrée, de la part de David. Quand Abner meurt, là, il y a tout un... David est effondré, il est tout indigné. Et j'ai lu ça en disant, mais il y a une injustice quelque part. Quand Joab, à un moment donné, a fait quelque chose contre David, David le dit, je lance une malédiction sur lui, qu'il n'y ait jamais de ses descendants qui vivent en paix, qui aient la lèpre ou des mortalités jeunes, etc. Et ensuite... Lorsque David est vieux, son lit de mort, il voit Salomon, son fils, et il lui dit, voilà, tu auras le règne maintenant, et je te demande de ne pas oublier deux hommes pour les mettre à mort en commençant ton règne. Le premier, c'est Joab. Le deuxième, c'est Shimei, qui était un méchant homme, qui avait fait vraiment, qui s'était opposé à David, qui l'avait insulté, qui avait fait des choses très méchantes. Mais Joab, ce serviteur qui semblait être fidèle. Mais le danger, c'est toujours quand on veut faire la volonté, sa propre volonté. Je vais défendre Dieu. Je vais être, il y a des pasteurs, des responsables d'église, des gens dans les églises qui disent, voilà, je vais faire le travail parce que j'ai ma vision des choses, j'ai ma façon de voir les choses. Je vais faire une scission dans l'église pour pouvoir commencer une église, parce que la vision de l'église qui est actuelle ne me plaît pas, je veux ma vision et moi je vais combattre pour Dieu. Et on dit, mais ils ont servi Dieu toute leur vie. On dit, Dieu devrait avoir une reconnaissance quelque part, il devrait dire, bon et fidèle serviteur. C'est ce qui sera dit à l'enterrement de la personne. Mais Dieu ne le dira pas. Ce seraient des hommes qui diront ça. Mais Dieu ne dira pas ça. Il y a une malédiction sur ceux qui veulent faire leur volonté sans soumission. Même si ça paraît pas logique ce que Dieu demande, il veut des gens qui font sa volonté et sa volonté seulement. Et c'était Jésus lui-même qui était Dieu qui a dit à son Père, je veux faire ta volonté. Non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. C'est Jean-Baptiste qui disait qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est l'apôtre Paul qui disait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Joab était loin de ça. Joab était, c'est moi qui vis et c'est moi qui décide et c'est moi qui dirige. Mais il n'avait pas l'esprit de David en lui. Il n'avait pas fait d'alliance avec David. Il remplissait son travail tel qu'il le voyait lui. Et que Dieu nous aide à pouvoir être soumis, à ne pas avoir notre propre volonté. C'est terrible de dire ça, on dit c'est scandaleux maintenant, il faut avoir sa volonté, etc. Non, ne pas avoir notre propre volonté, avoir celle de Dieu, celle du Père, et de ne pas chercher à être le seul à écarter les autres, mais à pouvoir faire la volonté de Dieu et à pouvoir discerner chez les autres aussi ce que Dieu a donné, ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen.